Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel, avec dans 30 minutes vos réactions après la confirmation du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter la CEDEAO. La décision est irrévocable. Voilà ce qu'ont déclaré samedi le général Tiani, le colonel Goïta et le capitaine Traoré, réunis pour la première fois en sommet, premier sommet de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Les militaires qui sont donc au pouvoir à Bamako, Niamey et Ouagadougou ont d'ailleurs franchi une nouvelle étape en créant une confédération des États du Sahel. La rupture avec la CEDEAO est donc consommée. Alors comprenez-vous cette décision et quelles peuvent être les conséquences maintenant pour ces trois pays, mais aussi pour l'avenir de l'organisation ouest-africaine? Nous lançons le débat. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 et il y a déjà du monde au standard. Et vous êtes déjà nombreux à nous envoyer des réactions, des commentaires que je lirai bien évidemment. Vous continuez à les poster sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vos questions à la rédaction et beaucoup de questions après le second tour des élections législatives anticipées en France. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, journaliste au service politique de RFI. On va commencer avec une première question après le revers du Rassemblement National. Jean-Paul, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Juan.
On vous écoute, vous nous appelez d'Abidjan.
Oui, bien sûr. J'ai une question. Comment expliquer que le Rassemblement national a perdu le terrain entre le premier et le second tour?
Ouais. C'est vrai que le Rassemblement national a échoué à obtenir une majorité. Il termine, rappelons-le, troisième.
Oui, aux alentours de 140 sièges, si on compte les alliés. Vous savez qu'il y a une partie du Parti des Républicains entraîné par Éric Ciotti qui a rallié le Rassemblement National à l'occasion de ces élections législatives. Vous avez raison, Jean-Paul, effectivement, le score du RN n'est pas celui qui a été anticipé par les nombreux sondages. Les instituts auront tout de même une excuse. Hein. Ils ont été contraints de faire des projections dans un délai extrêmement court, avec l'immense difficulté d'essayer d'évaluer pour le second tour des intentions de vote dans 501 élections différentes. On le rappelle, les élections législatives en France, c'est un scrutin majoritaire à deux tours par circonscription. Je ne cherche pas d'excuses aux instituts de sondage, hein, mais il faut reconnaître qu'à chaque élection législative, les sondages sont assez imprécis en France. Ça avait déjà été le cas d'ailleurs en 2022. Je voulais commencer par vous parler des sondages car c'est assez évident, je pense, que les projections qui ont circulé la semaine dernière et qui donnaient pour certaines une majorité absolue au Rassemblement National, ça a évidemment joué dans la psychologie des électeurs radicalement opposés à l'extrême droite. Ils ont senti qu'il y avait un danger. Évidemment, ça n'est pas le seul facteur. Il y a aussi et surtout ce que l'on appelle les désistements. Après le premier tour, la très forte participation a provoqué un nombre très important de triangulaires, à savoir des seconds tours où dans plus de 300 circonscriptions, il y avait trois candidats. Et dans plus de 200 cas où celui qui était arrivé premier était un candidat RN, et bien celui arrivé troisième, qu'il soit issu de la gauche ou du camp présidentiel, s'est retiré de la course.
Il y a eu quand même 131 candidats du Nouveau Front Populaire, donc de la gauche, qui ont choisi de se désister, tout comme 82 candidats macronistes. Et ça a plutôt fonctionné.
Absolument, ça a totalement fonctionné, puisque les voix se sont reportées massivement sur l'adversaire du RN, quel qu'il soit, qu'il soit... dans la plupart des cas, vous l'avez dit, Juan, issu du camp présidentiel ou du Nouveau Front Populaire. Ça s'est d'ailleurs joué à quelques voix près, dans près d'une centaine de circonscriptions. On était à peu près, vous savez, dans des pourcentages 51 pour l'autre, 49 pour l'adversaire. Et puis enfin, il y a un certain nombre d'erreurs politiques commises par le Rassemblement National, surtout dans l'entre-deux tours, des propositions hasardeuses, voire très polémiques, notamment sur les binationaux. Je ne sais pas si vous en rappelez, Jean-Paul. Le RN a expliqué qu'il voulait empêcher l'accession à des postes stratégique clé à des étrangers, enfin des binationaux. Quoi.
Et hier, Raphaël Delvolvé, Jordan Bardella a reconnu quelques erreurs de casting.
Tout à fait. Il y a eu un certain nombre de candidats pour le moins extravagants, au profil un peu bizarre. Ça s'est su et ça s'est vu, surtout. Enfin,
extravagants avec souvent des propos racistes.
Voilà, il y a effectivement, je vais y revenir, Juan, des candidats qui n'étaient pas présentables, disons les choses franchement. Ça s'est vu sur les réseaux sociaux, un certain nombre de ces candidats a été invité sur les chaînes de télévision locales et ils ont montré leur incompétence, leur incapacité parfois à répondre à des questions assez simples. À l'ère des réseaux sociaux, vous pensez bien que ce genre de choses se voit assez nettement. Et puis, vous l'avez dit, hein, il y a eu aussi des propos ouvertement racistes qui ont été entendus dans la bouche de candidats RN, de militants, de sympathisants de l'extrême droite également. Ça a provoqué un climat assez inquiétant de libération de la parole, d'une frange de la population. C'est évidemment à mettre également au crédit de la défaite de l'extrême droite, tout simplement parce que des cadres comme Jordan Bardella ont reconnu dès hier que des candidats n'auraient pas dû être là. Pour résumer, hein, Jean-Paul, le Front républicain a pleinement fonctionné et empêché le RN d'obtenir un nombre conséquent de sièges. Il faut toutefois souligner, c'est important, que le parti de Marine Le Pen établit deux records historiques à l'occasion de ces élections législatives anticipées. Il n'a jamais eu autant de sièges à l'Assemblée.
143.
Voilà, oui. C'était du jamais vu.
C'est 50 de plus que la précédente
législature. Hein. Et il y a 10 ans, il n'était que 8 dans l'Assemblée. Voyez, vous quand même le noter. Puis il y a aussi le nombre de voix. Plus de 10 millions obtenus par le RN dans une législative à deux tours par circonscription. Ça compte évidemment moins, mais c'est tout de même notable.
On va repasser au standard. Jean-Paul, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, merci beaucoup.
Et continuez à nous écouter à Abidjan. Bonne journée dans la capitale économique ivoirienne. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Ron, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu. Vous nous appelez de Conakry.
Oui, merci.
On vous écoute.
Je disais, peut-on s'attendre réellement à une entente entre les différents partis de gauche après l'échec de la NUPES lors de la dernière législature.
Ouais, la NUPES, rappelons-le, c'est l'alliance de la gauche lors de
la précédente législative de 2022.
Et elle a explosé en plein vol, cette alliance.
Absolument, on va y revenir. Bonjour Ibrahima, merci pour votre question. Alors, depuis hier, il y a des signaux qui vont vers une union de la gauche pour proposer un Premier ministre issu du Front populaire à Emmanuel Macron. Hein. Certains cadres, je pense notamment au socialiste Olivier Faure, espèrent qu'un nom émergera d'ici la fin de semaine, voire en milieu de semaine prochaine. Des cadres insoumis hier, des socialistes également, des écologistes ont dit que les négociations étaient en cours et avançaient bien. Et maintenant, Ibrahima, vous avez raison de rappeler que lors de la précédente législature, on l'a dit avec Juan, les gauches se sont unies au moment des élections avant de se désunir totalement dans l'hémicycle, notamment après le 7 octobre, hein, vous savez, le massacre terroriste du Hamas en Israël. Le positionnement radicalement pro-palestinien de la France insoumise a fait exploser cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, la NUPES. Il y a toutefois d'énormes différences entre hier et aujourd'hui, car cette fois la gauche unie est la première force politique à l'Assemblée et peut demander légitimement à former un gouvernement. C'est la tradition républicaine en France, le parti arrivé en tête a la priorité pour proposer un nom. Il faut tout de même souligner là encore que le nouveau Front populaire n'a qu'une majorité relative, petite majorité relative, à peu près 180 sièges, et a toutes les chances d'être renversé par ses opposants, notamment en raison de la présence dans l'alliance de la France insoumise. Si les composantes de gauche s'en accommodent, ça n'est pas du tout le cas de la plupart des autres partis qui accusent LFI notamment d'ambiguïté sur l'antisémitisme.
Ah oui, la Mabanque a également des questions à nous poser après le second tour des élections législatives en France. Bonjour la Mabanque.
Bonjour M. Wan et bonjour aux Guinéens vivant en France.
Ah, vous êtes également Guinéen. On vous écoute avec Raphaël Delvolvé du service politique de RFI.
Bonjour la Mabanque.
Merci Raphaël pour la disponibilité. Qui pourrait être nommé Premier ministre ?
Ah, d'autant qu'aucun bloc n'a obtenu la majorité absolue. Avez-vous un élément de réponse ou un début d'élément de réponse, mon cher Raphaël ?
Alors, évidemment, personne n'a la réponse actuellement, la Mabanque. Si certains l'ont, il taise le nom. Il n'a pas filtré pour le moment. Je vais commencer par évoquer les différents groupes à l'Assemblée nationale. Déjà, ils ne sont pas encore constitués. Ils ont jusqu'au 18 juillet prochain pour le faire. Et une fois que les forces seront réparties au sein de l'hémicycle, on y verra déjà plus clair. Aucun groupe actuel ne peut pour l'instant former un gouvernement. Aucun groupe ne peut en tout cas le faire tout seul. Nouveau Front populaire, camp présidentiel et Rassemblement national ne disposent pas de la majorité suffisante et de fait se retrouvent sous la menace d'une motion de censure, synonyme de renversement. Alors pour que ce soit gouvernable, si j'ose dire, il faut que des coalitions soient scellées entre partis de bonne volonté. Mais lesquels, vous me direz, dirigés par qui ? Là, très honnêtement, la Mabanque, j'ai pas la réponse. Dans les sondages, les Français, on peut s'appuyer là-dessus, plaçaient aux deux premières places Gabriel Attal et Jordan Bardella.
Bon, enfin, ça, c'était avant, ça, c'était avant dimanche soir.
Avant dimanche soir, depuis les choses ont évolué, donc il faudrait refaire une étude pour voir quel profil les Français préféreraient voir à Matignon. Mais pour diriger une coalition qui pourrait allier des personnalités de gauche et de droite, il faut faire consensus, et c'est toute la difficulté, oui, de trouver une personnalité qui peut satisfaire un peu tout le monde.
Et ouais, en attendant, Emmanuel Macron a demandé à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment.
Pour le moment.
Gabriel Attal qui, rappelons-le, s'est rendu hier à l'Élysée remettre sa démission. Mm-hmm. Et cette situation, Raphaël, elle peut durer un petit moment.
Ah, ça peut durer indéfiniment.
Rien n'est stipulé dans la Constitution, rien ne limite, en tout cas dans le temps.
Absolument. Et ça consacre le pouvoir total du président. Ça, c'est l'article 8 de la Constitution. Mm-hmm. Le président de la République seul nomme le Premier ministre qui il veut et quand il veut.
Ibrahim, vous êtes à Ottawa et vous suivez RFI en pleine nuit. Merci de votre fidélité. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, merci Juan. Je voudrais savoir, oui, comment le nouveau gouvernement pourra-t-il gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée nationale ?
Raphaël Delvolvé.
Merci Ibrahim, je vous dis bonsoir parce que c'est la nuit chez vous au Canada. Alors il faut déjà savoir qu'en 17 élections législatives sous la 5e République, cette situation de non-majorité ne s'est jamais produite. Hein. Ça n'est jamais arrivé, on est dans l'inconnu total. Soit il y avait une majorité absolue autrefois, soit une majorité relative, mais avec laquelle un seul camp pouvait prétendre au gouvernement. C'était notamment le cas lors de la dernière législature. La majorité présidentielle avait 250 sièges, proche donc des 289. Ça permettait ponctuellement de faire des alliances et faire passer des textes. Là, donc, personne ne peut prétendre, ouais, à diriger le
Alors,
gouvernement.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, déjà, on fait preuve d'imagination. C'est le plus dur. Pour trouver une coalition solide, ça, on l'a évoqué précédemment, incarnée par une figure consensuelle, je le rappelle, pour s'assurer qu'une majorité de députés ne vote pas contre vous. Parce que c'est ça, hein, l'Assemblée nationale. Si vous avez plus de 289 députés qui votent contre vous, vous êtes quasi sûr d'être renversé. Voilà, c'est ce qu'on appelle la censure, la motion de censure. Et puis, eh bien, on évite les textes trop clivants, trop ambitieux. On cherche ce qu'on appelle le compromis, ce qui se fait dans beaucoup de pays d'Europe, comme en Allemagne. Je peux aussi vous donner l'exemple du Parlement européen, où comme dans la nouvelle Assemblée française, personne n'a la majorité absolue. Les eurodéputés en ont l'habitude. Ils s'allient selon les circonstances, selon les textes. Cependant, c'est difficile pour les Français d'imaginer ça, tout simplement parce que ça n'est pas dans leur culture. Du moins, ils ont déjà connu ça sous la 4e République, durant laquelle, entre 1946 et 1958, accrochez-vous Ibrahim, 22 gouvernements différents se sont succédés. Chacun d'entre eux avait une durée de vie moyenne
de
7 mois, pour être précis. Cette instabilité a tellement perturbé le fonctionnement du pays qu'on a inventé la 5e République, cette même 5e mise à l'épreuve après cette folle séquence dissolution, élection et donc absence de majorité.
Ibrahim, bonne fin de nuit à Ottawa.
Merci, Juan.
Vous travaillez ou vous avez des insomnies?
Non, c'est juste que j'aime l'émission et puis je l'écoute.
Ah, bah, c'est gentil.
Oh,
merci,
c'est adorable.
À vous. À très vite, alors, Ibrahim. Merci à vous. 8h23 en temps universel. Autre question standard. Mamadou, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et Raphaël Delvolvé du service politique de RFI vous écoute. Quelle est votre question?
Je voudrais savoir quel va être le rôle d'Emmanuel Macron après ces élections législatives. C'est ma première question.
Mm-hmm. Alors, vous avez plusieurs questions, cher Mamadou ?
J'ai deux questions.
Alors, allez-y pour la deuxième.
Question, oui. Bon, je vais prendre les deux d'un coup.
La deuxième question, comment se répartirait le pouvoir entre le président et le gouvernement ?
Alors, d'abord, le rôle d'Emmanuel Macron.
Alors, on l'a déjà évoqué, le rôle d'Emmanuel Macron, ça va être de nommer le Premier ministre. Il a, en principe, toute liberté de choix et de temps. Je le rappelle, c'est l'article 8 de la Constitution. Il peut choisir qui il veut comme Premier ministre et quand il veut. Évidemment, dans le cas actuel, il va se retrouver sous pression. Typiquement, l'Union de la gauche, qu'on a évoqué tout à l'heure, sortie première des urnes, va vouloir imposer un Premier ministre au président. Mais comme on l'a dit précédemment, ce Premier ministre aurait toutes les chances d'être renversé à l'Assemblée par la suite. Emmanuel Macron peut toutefois décider de nommer un candidat du nouveau Front Populaire pour le mettre devant le fait accompli. Mais il a aussi tout à fait le droit de refuser au prétexte que cette personnalité n'aurait aucune chance de gouverner. Il prend le risque en même temps de brusquer les électeurs du nouveau Front Populaire qui attendent un Premier ministre issu de leur rang. Mais ça lui permet aussi de maintenir Gabriel Attal pour expédier les affaires courantes, de gagner du temps en quelque sorte. pour permettre l'émergence d'une coalition alternative. On est en plein dans la séquence. Emmanuel Macron pèsera d'ailleurs, ça on le sait déjà, dans les négociations pour convaincre d'autres personnalités venues de la droite ou de la gauche de le rejoindre pour gouverner. Alors bien sûr, une coalition d'opposants peut toujours se monter face à lui. Dans ce cas, il y a cohabitation et c'est là que je vais répondre à votre deuxième question. Là, le président n'a quasiment plus de pouvoir. Il peut refuser de signer les ordonnances et de convoquer encore des référendums, mais il est obligé de promulguer les lois votées par ses opposants. Il lui resterait également ce qu'on appelle les domaines réservés. Ça date de la toute première cohabitation de la Ve République entre Chirac, 86 et 88.
Chirac, Mitterrand.
Président, Chirac, ouais. Premier ministre, absolument. Le domaine réservé, il faut comprendre par là la politique étrangère ou encore tout ce qui est les questions de défense. Alors, ce n'est pas établi clairement dans la Constitution, mais c'est l'usage, on va dire. Ce qu'il y a à retenir, en tout cas, Mamadou, c'est que le pouvoir ne sera ni réellement entre les mains du président ni entre les mains du Premier ministre, mais entre les mains du Parlement, car le chef de n'importe quel futur gouvernement aura, et à chaque instant, des comptes à lui rendre. Il sera en permanence menacé de motions de censure. Vous voyez, le centre du pouvoir, le barycentre, comme on dit, s'est totalement déplacé au Parlement.
Allez, une dernière question qui ne sera pas pour vous, mon cher Raphaël, mais vous êtes invité à rester, évidemment. Bonjour Taoufik.
Bonjour, Joran.
Bienvenue, vous êtes à Lomé, au Togo.
Oui, bien évidemment.
Alors, vous avez également des questions concernant ces élections législatives françaises.
Oui, deux petites questions, deux préoccupations. La première, plusieurs études ont révélé des cas d'ingérence de la Russie dans la campagne des législatives en France. Je suis curieux de comprendre comment la Russie s'y prend pour y parvenir.
Ah oui, et c'est une étude du CNRS qui nous a appris effectivement que la Russie a tenté de déstabiliser les dernières élections en France. David Chavalarias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de recherche au CNRS. On vous doit d'ailleurs cette étude sur les ingérences russes. Comment s'opèrent-elles concrètement ces ingérences?
Alors cette ingérence utilise une stratégie hybride. Se déploie à la fois sur des terrains numériques et sur des terrains physiques. Sur les terrains numériques, il s'agit de modifier la perception qu'ont les électeurs de telle ou telle partie ou de telle thématique en amplifiant les divisions. Donc on va par exemple utiliser...
Alors, excusez-moi, David Chavalarias, il y a un petit problème de réseau téléphone, votre voix se robotise et je n'ai pas le décodeur pour décrypter vos propos, donc peut-être essayer de vous déplacer pour qu'on puisse bien vous entendre et que Taoufik puisse évidemment avoir les explications nécessaires. On refait une petite tentative, David Chavalarias. Donc vous nous disiez que ça passe notamment, et on est en train de le rappeler, me dit-on, Raphaël Delvolvé. Oui. Vous avez, en tant que au sein du service politique de RFI, est-ce que vous avez eu l'occasion aux côtés de candidats durant ces élections, de candidats qui se plaignaient justement de cette ingérence russe?
Alors oui, des figures à gauche, notamment un certain Raphaël Glucksmann, qui est régulièrement visé par des ingérences soit russes, soit... azerbaïdjanaise, oui. Il est très impliqué. Chinoise également, c'est des personnalités qui sont très impliquées dans les oppressions de minorités dans ces pays-là. Alors voilà, ils sont régulièrement visés. Et puis il y a une information qui peut nous donner une information et nous éclairer, c'est que Vladimir Poutine a fait part de sa déception de voir le Rassemblement ne pas gagner.
Et quelques jours avant quelques jours avant le second tour des élections législatives, le ministère des Affaires étrangères russe avait sur Twitter, sur X aujourd'hui, fait part du souhait de voir effectivement l'extrême droite et le Rassemblement national remporter ces élections.
Absolument, absolument. Donc vous voyez, il y a deux informations là-dedans. Oui, la Russie avait un œil et très avisé sur ces élections, donc on peut présumer qu'il y a pu y avoir des tentatives d'influence, et on peut aussi comprendre qu'elles n'ont pas fonctionné. Le Rassemblement national a perdu et Vladimir Poutine donc a fait part de sa déception.
Et David Chavalarias, on a fini par établir la liaison, mais il nous reste 30 secondes, donc ce serait vraiment du gâchis que de vous prendre simplement ce temps très très court. Si votre agenda vous le permet et si Taoufik est disponible, on essaie évidemment d'ici la fin de la semaine de vous avoir quelques instants évidemment pour décrypter justement ces tentatives de déstabilisation venant du Kremlin lors des élections législatives françaises. Merci infiniment en tout cas Raphaël Delvolvé. Bon courage pour la suite. Il y a encore beaucoup de travail au sein du service politique de RFI durant les prochains jours et les prochaines semaines. Vous restez avec nous dans 10 minutes. Vos réactions après la création président de la Confédération des États du Sahel. Est-ce une bonne idée? Cette confédération vous semble-t-elle réaliste? On en parle.